Carnet de région.
Gare,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine Carnet de région. Cette semaine au programme Radio Pays d'Hérault vous parlera de la distillerie de l'Odève qui s'offre une seconde jeunesse. RCF Maglone Hérault nous proposera tout d'abord un reportage sur les obsèques de Louis Nicolin et ensuite un autre sujet sur l'arrivée d'un nouveau consul du Japon pour la partie sud de la France. La distillerie de l'Odève, au nord-ouest du département de l'Hérault, s'offre une seconde jeunesse. L'ancienne usine désaffectée se transforme en un projet collectif et coopératif. Architectes, paysagistes, entrepreneurs travaillent main dans la main pour redonner vie à ce bâtiment et invitent tous les habitants à venir les rejoindre dans leur aventure. C'est un sujet de Sarah Gilmant de Radio Pays d'Hérault.
Abandonné depuis des décennies, vestige de l'ère industrielle de la commune dans les mémoires, le souvenir est lointain, les plus âgés se rappellent.
On recevait tous les marcs de raisins de toute la région, de tous les petits villages alentours, et là où il y a les deux villas qui sont construites, et ben, il y avait la distillerie, il y avait de grandes cuves, oui, et ils mettaient tout ce marc là.
Je me souviens quand je suis venue m'installer, là, les odeurs de marc me...
C'est horrible. Il y avait des avantages et des inconvénients, c'est sûr. Mais bon, c'était une époque, vous savez.
Les grandes cuves n'existent plus, mais la bâtisse, plus de 2000 mètres carrés au cœur de ville, tient encore debout et n'a pas dit son dernier mot. L'ancienne usine est réhabilitée. 6 optimistes ont racheté ses murs, dont Cédric Gilles. Il nous explique leur projet commun.
Le lieu a été trouvé par hasard. Ce qu'on cherchait, par contre, c'est pas un hasard. C'est vraiment un lieu qui mélange un bureau et de la fabrication. C'est-à-dire qu'on dessine, on fabrique, on cherche des prototypes, on travaille avec les artisans. Et du coup, un lieu voilà, où on co-crée ensemble et on profite des savoir-faire des uns et des autres pour avancer et monter chacun en compétences. De nos jours, on a tendance à séparer conception et fabrication. L'idée dans ce lieu, c'est de trouver les deux et de trouver des gens qui travaillent différentes matières qui tournent autour de cette grande cour intérieure. Là. Donc l'aventure commence là. Si on tourne autour de la cour en rentrant, on a ce qu'on appelle une maison de ville, c'est-à-dire une maison pour la ville, où on a des débats citoyens sur toutes les questions qui concernent la ville, le paysage, l'aménagement urbain. Tout de suite après, on a un peu le poumon du lieu, c'est le café. L'endroit où sera affiché, où en est le projet, là où on a envie de participer avec un planning qui permet de gérer toutes les tâches dans le temps. Et ensuite démarrent les premiers grands ateliers, donc autour du bois, du métal, du tissage et de la terre. Ensuite, à côté, on a un lieu multifonction qui servira à la fois de résidence, d'exposition, et il va tourner avec des usages différents tous les mois, en fait. Le dernier atelier, qui fait 180 mètres carrés, là, c'est un atelier de fabrication autour du bois et de l'acier. Donc dans l'idée où il y a des gens qui auront des postes fixes et du coup des machines qui sont mises à disposition. Des gens du quartier qui ont besoin de fabriquer un meuble viennent avec des formateurs qui les accueillent, les aident à réaliser eux-mêmes les meubles avec du matériel professionnel mis à disposition sous conditions et encadré bien sûr. Un lieu ouvert à tous et surtout à co-créer ensemble. L'idée c'est qu'on donne la pleine propriété à l'association pour que les gens qui viennent se sentent vraiment porteurs du projet et créateurs du projet.
Tout reste encore à faire mais déjà les premières envies se précisent et elles sont nombreuses. Avec leur association, la distillerie créée il y a quelques mois à peine, Marc Padilla, l'un des porteurs du projet, n'espère qu'une chose, montrer que l'Odève bouge et dans le bon sens.
Pour beaucoup de gens, l'Odève effectivement est une ville difficile, effectivement avec un taux de chômage important et ça fonctionne pas et c'est compliqué. Moi, c'est pas du tout ce regard que j'ai. C'est une ville qui est extrêmement agréable par le cadre de vie, par les gens qui y sont présents. L'énergie, elle est latente, elle est là et elle a juste besoin de s'exprimer. Donc, il manque pas grand chose en fait pour que de quelque chose de négatif, en fait, on se transforme en quelque chose d'ultra positif. Et donc, ce bâtiment, la distillerie, va servir à ça. C'est agir dans le plaisir avec les gens, avec une forme de liberté d'action qui est totale quand on est en entrepreneur et qui est certainement plus compliqué quand on est dans le système institutionnel. Donc c'est profiter de cette liberté d'action. Après, les moyens, les ressources, les énergies, elles sont partout. Donc c'est juste les mettre en lien pour qu'on puisse créer quelque chose de constructif, mais ça se fait. Aujourd'hui, là, il y a un jeune qui est venu, qui s'est proposé d'être bénévole, qui là va donner un coup de main sur des travaux dans l'isolation. Il suffit juste d'être ouvert et de se mettre en lien. Et à partir de là, une fois qu'on est relié, ce jeune pourra trouver du travail très facilement parce qu'il a intégré déjà une dynamique professionnelle. Dans la dynamique du lieu, c'est pareil, pour que ce soit beau ici, il faut tout nettoyer, il faut aller à la déchetterie, il faut faire ce genre de choses. C'est là où c'est intéressant quand on a plusieurs compétences, c'est-à-dire que l'architecte peut être avec le balai et faire tout ce qu'il faut faire pour que ce soit propre. C'est-à-dire qu'on décloisonne tous nos schémas de pensée. On n'est pas patron d'une entreprise et donc on regarde les autres travailler. On doit faire plusieurs choses. Et c'est aussi comme ça, par rapport aux jeunes, que le regard peut changer sur le monde du travail. En fait, la distillerie et un terrain de jeu.
Tout juste inauguré samedi dernier, ce nouveau lieu de culture est encore peu connu des habitants, mais déjà, certains s'intéressent au projet comme Claire.
On trouve que c'est une merveilleuse idée. Ça va mettre une animation très sympathique sur l'Odève en plus. Mettre du lien entre les gens.
L'association se donne 3 ans pour réhabiliter entièrement l'ancienne usine, mais vous pourrez déjà découvrir le lieu et leur projet. La compagnie du théâtre L'Œil du Renard s'installe à la distillerie samedi 15 juillet à 21h pour sa pièce Garde à Rem.
C'était un sujet de Sarah Gilmand avec la participation de Robert Martin de Radio Pays d'Hérault. 2000 personnes sont venues assister aux obsèques de Louis Nicolin mardi matin à Montpellier. L'emblématique dirigeant du club de foot de la ville est mort jeudi dernier d'un arrêt cardiaque. Un décès brutal alors qu'il déjeunait au restaurant avec sa famille pour fêter ses 74 ans. Plusieurs personnalités et anonymes lui ont rendu un dernier hommage à la cathédrale Saint-Pierre, cérémonie à laquelle Thomas Loret de RCF Hérault a assisté.
Une cérémonie avec un important dispositif de sécurité, on n'entre que sur invitation, les autres restent sur le parvis sous un soleil de plomb. À 10h, Mgr Carré, archevêque de Montpellier, prend la parole.
Notre mémoire évoque tant de souvenirs et d'images, mais ici, nous voulons nous recueillir, prier pour lui et pour les siens. Que la paix de Dieu vienne en lui.
Dans l'assistance, plusieurs personnalités, Laurent Blanc, Christian Jean-Pierre ou encore Nicolas Sarkozy. Dehors, le public suit sur un écran géant. Vincent est venu en famille de Louis Nicolin. Il retient surtout la générosité.
Je vais citer une anecdote. On était étudiants, on avait fait un bus de supporters. Il avait payé la moitié du bus pour nous aider à aller à Monaco voir un match de coupe à l'époque, dans les années 80. Chose qui reste dans ma tête.
Les anciens joueurs du MHSC confirment, comme Christophe Sanchez, venu rendre un dernier hommage à Louis Nicolin.
Je tenais à le remercier. Bon, il avait ce côté un peu excessif, mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est surtout ça, ouais, ce grand cœur.
Jacques Vendroux, journaliste sportif et ami de Louis Nicolin, retient aussi sa capacité à soutenir fermement ses proches.
Il était jaloux de personne, il aimait la réussite de ses amis, c'est quelqu'un de formidable. Et curieusement, on a passé un grand moment de sérénité grâce à lui dans cette magnifique église. Merci Louis.
Après une heure de cérémonie, le cortège porte le cercueil jusqu'au corbillard. Avant son départ, un clapping est initié par un supporter en signe d'adieu à celui qu'on appelait affectivement. Loulou.
C'était un reportage de Thomas Loret de RCF Hérault.
Carnet de région. L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Akira Takeda vient du Luxembourg. Il est passé par plusieurs pays francophones comme l'Afrique ou la Côte d'Ivoire. Il a pris ses nouvelles fonctions la semaine dernière à Marseille. Il sera chargé de s'occuper des problématiques des ressortissants installés près de la Méditerranée. Akira Takeda nous explique sa mission au micro de Cédric Combet de RCF Hérault.
Takeda Akira, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir pris le temps pour être avec nous quelques minutes. Vous êtes tout nouveau consul du Japon à Marseille.
Oui, tout à fait. Je viens d'arriver il y a une semaine depuis Luxembourg. Mais ce n'est pas la première fois que j'habite dans le sud de la France. Quand j'étais étudiant il y a plus de 30 ans, j'ai passé une année à Aix-en-Provence. Et j'ai passé un mois aussi à Montpellier en tant qu'étudiant pour apprendre la langue française.
Qu'est-ce qui vous a fait arriver à être consul aujourd'hui ?
J'ai travaillé dans plusieurs postes dans les pays francophones. Juste avant de venir ici, comme je vous ai déjà parlé, j'étais au Luxembourg pendant 5 ans. Dans le passé, j'ai été aussi pendant 5 ans à Paris pour la délégation auprès de l'UNESCO. Mais au total de 10 ans aussi, j'ai travaillé dans différents pays francophones, Afrique, Guinée, Côte d'Ivoire et au Cameroun. Donc c'est vrai que je me suis plus ou moins habitué de la langue française, oui.
Oui, vous parlez très bien français, pas trop.
Oui, je me débrouille, je commence à reprendre, c'est pas toujours facile.
Je me doute, monsieur le consul. Autre question, à quoi sert le consulat du Japon ici en France? Quelles sont à peu près ses missions, son travail au quotidien?
Oui, il y a plusieurs missions importantes. D'abord, bien sûr, promouvoir, renforcer les relations d'amitié et de coopération entre le Japon et la France, et particulièrement avec la partie PACA et Occitanie ainsi que Corse, donc la partie sud de France. Mais aussi, nous devons protéger les ressortissants japonais qui ne sont pas très nombreux. Au total, 3400 ressortissants japonais qui habitent dans cette partie sud de la France. Concernant Montpellier, c'est à peu près 220, seulement 220 Japonais. À Marseille, 240. Donc, par rapport, par exemple, à Paris ou bien Lyon, le nombre de ressortissants japonais, c'est modeste.
Et du coup, vous, dans cette histoire, vous, en tant que consul de Japon, quelle est votre mission, votre rôle aussi au quotidien de gérer tout ça?
C'est vrai qu'il y a une partie de travail de gestion, ça aussi c'est mon travail, mais c'est plutôt mon travail de représentation. Chaque fois qu'il y a une manifestation comme ce soir, importante, de relations franco-japonaises, mais aussi, bien sûr, pour la discussion avec les autorités, ou bien des représentants du monde business, ou bien des sociétés civiles locales, pour les relations bilatérales.
Est-ce qu'en France, on accueille, selon vous, assez d'étudiants japonais et que l'échange se fait correctement, ou c'est pas tellement équitable, on en voudrait plus d'un côté et de l'autre? Qu'est-ce que vous en pensez en tant que consul?
Je ne dispose pas de chiffres très exacts, mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait des déséquilibres ou bien des mécontentements d'une partie ou de l'autre. Donc ça marche très bien depuis très longtemps, cette histoire d'échange des étudiants. Oui.
Selon vous, qu'est-ce que le Japon aurait à apporter à la France et la France aurait à apporter au Japon dans les années à venir?
Peut-être beaucoup de choses, mais nous avons ressemblance culturelle, ressemblance dans l'approche de la vie, c'est-à-dire nous sommes tous les deux très sensibles aux aspects de bienfaisance de la vie, ainsi que profondeur culturelle, etc., et curiosité à l'égard du monde extérieur. Nous partageons beaucoup de valeurs ou bien de points de vue dans plusieurs domaines. Donc, bon, sans parler de notre coopération économique ou bien politique, nous avons une similitude assez importante. C'est pourquoi nous nous sommes attirés. Je crois que c'est une relation bilatérale la plus naturellement établie et développée du monde. C'est à cause de cette certaine similarité et à proximité culturelle. Donc dans ce domaine, nous prenons bien sûr encore beaucoup de choses à faire pour concrétiser la base existante déjà, bien sûr dans le domaine surtout économique, mais aussi échange étudiants, jeunes, etc., comme vous en parlez tout à l'heure.
Vous, à ce jour, vous habitez en France tout le temps, alors vous retournez peut-être au Japon, mais le Japon vous manque pas intérieurement, par le cœur, monsieur le consul?
Oui, c'est vrai que malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps à passer au Japon et il me manque beaucoup de choses, mais ma profession oblige de, quand il faut, rester à l'étranger longtemps, tant qu'il faut. Donc ça fait partie de ma profession.
On vous souhaite un bon courage dans votre mission, monsieur le consul. Merci à vous.
Merci beaucoup, bonne soirée.
C'était un reportage de Cédric Combet de RCF Hérault. C'est la fin de votre magazine Carnet de Région, aujourd'hui réalisé par Radio Bartas.
Carnet de Région.
Gare.
Aude.
Lozère.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Croussillon.